Donc je me présente Jean-Marc et sur les internets ou les intertubes, comme vous voulez, j'ai un nickname FO0 qui se prononce fou. J'ai rejoint le collectif Télécomix il y a 2-3 ans qui était axé plus sur le lobbying contre le Télécom Packet Act, qui est une loi à Bruxelles qui était liberticide, qui disait que sur l'internet il y avait des pédophiles de partout. Communistes, poseurs de bombes, ce que vous voulez, et qui disaient voilà, on va pouvoir filtrer. Et du coup, j'ai rejoint ce collectif à la base en faisant une traduction d'un activiste qui s'appelle Mogis, qui avait fait un texte contre cette loi, qui lui-même avait été victime de réseaux pédophiles. Donc pour le coup, il savait de quoi il parlait, et donc on a traduit ça en français et en anglais, et je suis resté au sein de Télécomix. Ensuite, Télécomix, ça s'est passé très vite parce qu'après, il y a eu Wikileaks, où on a pas mal aidé à faire du mirroring. Donc, à un moment donné, vous avez vu, il y a un Anonymous qui a parlé de l'effet Barbara Streisand. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'effet Streisand, c'est, ça, je sais plus l'année, aux États-Unis, il y a un journaliste qui a pris la photo de la maison de Barbara Streisand, et ça ne lui a pas plu. Et elle a demandé à ce journaliste d'effacer, donc de retirer ça de la presse. Donc déjà en soi c'était assez drôle, parce que les journaux étaient déjà vendus. Bon, et donc en réaction, il y a eu toute une levée de boucliers, et tout le monde s'est mis à dupliquer cette photo-là. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet Streisand. Il y a mon ami Benjamin Bayard qui appelle ça l'effet Flamby aussi. C'est-à-dire que vous prenez un Flamby, vous le mettez sur une table, et vous voulez le faire disparaître, et donc vous tapez très fort dessus. Sauf que le Flamby, il va arroser tous vos murs. Donc il y en aura beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est l'explication de Benjamin Bayard qui est sympa. Et ensuite, il y a eu un peu moins drôle, la Tunisie, où là, je me suis personnellement impliqué avec d'autres personnes pour faire passer des informations, relayer tout ce qui était vidéo portable et les poster sur YouTube, maintenir des listes toute la nuit de tout ce qui se passait avec des liens. URL pour que les gens puissent retrouver, surtout les journalistes, puissent retrouver les documents qu'on nous envoyait. Égypte, pareil, avec. Alors, l'Égypte, c'était particulier quand il y a eu la coupure Internet. Là où ils ont coupé que le réseau Internet. Il y avait encore le téléphone. Donc, on s'est dit, enfin, beaucoup se sont dit, bah, on va utiliser le téléphone comme à l'époque du modem 56K, qui fait du bruit. Donc, on mettait dans plusieurs pays, en France, avec l'aide de FDN, French Data Network, qui est un des plus grands fournisseurs d'accès, des plus vieux, pardon, fournisseurs d'accès Internet en France. Il y a eu le Chaos Computer Club, je crois, je sais plus trop. Il y a eu Google qui a aidé, il y a eu des gus de Télécomix en Suède. On a tous mis des modems chez nous, en fait, bêtement, pour expliquer simplement, on a mis des modems en France, en écoute chez nous, des petites boîtes, qui étaient sur notre table. Les Tunisiens appelaient sur ces boîtes-là, et nous, on se chargeait de nous reconnecter sur Internet derrière. Donc voilà, c'est tout bête, ça demande quasi zéro de savoir technologique. Voilà, en gros, ce qu'on a fait. Et derrière, il y a eu la Libye. La Libye, c'était un peu différent. Moi, j'ai pas trop. Après, Tunisie, Égypte, j'ai levé un peu le pied, j'ai fait d'autres choses. En Libye, on a plus fait, pour une fois, Télécomix a commis quelque chose d'illégal. On a fait une intrusion dans un système de surveillance et on a fait fuiter. Tous les journaux, en fait, les logs de connexion, qui prouvaient que la Libye était sous écoute. Donc, une écoute de masse de toute la population. C'est la seule fois, je pense, que Télécomix a commis quelque chose d'illégal. Normalement, on ne fait pas ça. C'est pas notre but, mais ce coup-là, on s'est dit, bon, ça vaut le coup quand même de mettre quelque chose devant le nez du grand public. En Syrie, bon, bah, c'est pareil. En Libye, c'était intéressant parce que c'était quand même une boîte française qui a vendu du matériel à notre ami Kadhafi. Donc je pense que vous avez peut-être entendu parler Bull, Amesis, c'était du matériel comme ça. Il y a eu aussi Bluecoat. Donc voilà en gros Télécomix. Et ensuite Télécomix Anonymous, comme j'aime à le dire, je ne sais pas si j'ai raison, on a à peu près les mêmes buts, mais on n'a pas les mêmes armes. Voilà, ensuite, Peter Fenn, que vous avez vu, a été chez Anonymous et a rejoint Télécomix. C'est un super gars, une grosse brute en code. C'est vraiment un très très bon. Ouais, il y a des ponts qui se sont faits, il y en a beaucoup qui viennent nous voir, on a eu des contacts réguliers avec eux. Voilà, quand ils faisaient des opérations de DDoS et puis que ça ne nous plaisait pas trop, on allait leur dire, ce serait cool que vous arrêtiez de, par exemple, de DDoS le site de Bruxelles en plein vote contre l'ACTA. Par exemple, on a été le voir en leur disant c'est pas très utile, c'est contre-productif. Et du coup, ils ont arrêté le DDoS le temps du vote. Bon, après, ils se sont relâchés, évidemment. Donc, voilà en gros ce qui était les comics. Et au-delà de ça, après, il y a des choses qui... voilà, je suis passé devant un écran et j'étais un peu plus loin. Maintenant, je me déplace un petit peu dans le Moyen-Orient, donc notamment Tunis et Caire, où j'ai fait des... Enfin, grâce à ce que j'ai... À Télécomique, j'ai noué des contacts avec des gens sur place, des activistes, avec un H ou sans H, qui, eux, pour le coup, ont risqué leur vie, parce que nous, on est derrière le clavier. Hein. Faut relativiser, on fait que ça. Et après, de rentrer en contact avec ces gens-là, c'est une autre dimension. Donc, voilà.
Merci, bonsoir Kevin. Je souhaitais juste vous demander comment Télécomics procède à la formation de ses membres, parce que en voyant de tels reportages, de tels documentaires, peut-être que beaucoup d'entre nous sont intéressés ou motivés pour se lancer dans ce genre d'action, mais est-ce que ça ne suppose pas derrière une éducation à l'éthique morale de la non-violence, une éducation psychologique, une sorte d'éducation finalement à l'activisme éthique. Comment ça se passe derrière pour ne pas qu'il y ait justement de grosses brutes qui viennent juste pour de l'action et pour tout exploser en fait.
Oui. Alors, Télécomics, déjà, les gens qui demandent qu'est-ce que c'est, le premier truc, c'est qu'ils vont sur Internet, ils regardent un petit peu. Ils vont sur YouTube, ils regardent Télécomics. Télécomics, on fait aussi des vidéos. Forcément, on n'est pas du level d'Anonymous. Anonymous, en com, les mecs, ils poutrent. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils sortent une vidéo YouTube, c'est vu, en une heure, c'est 300 000 vues. Nous, juste le ton de nos vidéos, déjà, ça donne... vous savez que vous n'allez pas rentrer dans un truc où on va vous demander d'aller attaquer des sites. C'est vraiment des vidéos positives, un peu barrées, parce que le Suédois, quand il boit, il est barré. C'est clair. C'est toujours dans un bon esprit. C'est dans un délire un petit peu crypto, cipher, etc. Voilà, ceux qui viennent chez nous, ils savent qu'il y aura... qu'il va pas débouler en disant « Ouais, je vais attaquer ci, je vais attaquer ça. » On va lui expliquer calmement, on va pas le jeter. Ça, c'est clair. Il y a pas de level particulier, il y a pas de niveau, pardon, particulier à connaître. Que ce soit en réseau, en programmation, il y a pas de ça. Juste des bonnes volontés. Après, Télécomics, c'est intérieur. Enfin, intérieur, c'est pas une secte, c'est juste un collectif. Il y a surtout un échange, avant tout un échange de savoir, qui est très important. Voilà si ça répond à ta question.
Oui, merci. Tu as parlé donc de vidéos pour... Laurent, pardon. Tu as parlé de vidéos pour diffuser de la connaissance. Et il y a quelqu'un qui m'a signalé que sur le site de la CNIL, par exemple, en France, il y a des vidéos qui expliquent comment on installe Tor pour masquer son adresse IP. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Vous êtes au courant de ce que fait la CNIL ou pas du tout? Ou est-ce que vous êtes des sympathisants à la CNIL, on va dire?
Non, j'étais pas au courant. Enfin, je sais à peu près ce que fait la CNIL. Ils font des choses. J'étais pas au courant qu'ils avaient. C'est super. Ils ont fait un tuto sur comment installer Tor. Alors Tor, c'est un système pour aller sur Internet de façon anonyme, on va dire. En gros, c'est ça. Et non, je ne savais pas. Et puis bon, à la limite, c'est très bien si des gouvernements ou des institutions, du moins, commencent à se rendre compte de ça.
Je vais fâcher les gens avec des questions techniques. Est-ce que tu sais, plutôt que d'utiliser des choses comme Tor, est-ce que tu sais s'il n'y a pas des solutions un peu plus larges comme des distributed DNS qui se mettent en place?
Chez vous?
Partout.
Au sein de...
Non,
en
du software.
Qui existe?
Ouais.
Qui se développe?
Oui.
Il y en a un, je crois, il me semble. Et non, pas manifestement, il fonctionne. Enfin, ça décolle pas.
D'accord.
Ça décolle pas, c'est le jour où il y aura un collectif qui dira on va commencer à le faire, on va commencer à le mettre en place.
Parce que je pense que c'est vraiment ça la solution, d'avoir chacun chez soi des DNS.
Et... C'est une solution.
Mais en tout cas, c'est...
Oui, oui, mais c'est comme tout bon projet, il y en a plein des projets que je vois tous les jours qui sont super. Ensuite, il faut que ce soit soit un collectif, soit une bonne personne, une image, qui s'en empare et qui dise ouais, regardez ça. On va le faire regarder PirateBox. PirateBox, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un TP-Link, c'est une boîte, c'est rien. Il y a 2-3 bus qui sont amusés à faire du mesh, et puis ils se sont dit, tiens, on va mettre, au lieu de mettre une clé 3G, on va mettre une clé USB, et puis du coup, ça fait un petit Wi-Fi portable dans le train, n'importe où, et il y en a de plus en plus. Donc, mais pour l'instant, non, ça c'est... Je sais que ces JDNS fonctionnent de plus en plus, il y a une communauté qui commence à se mettre au-dessus de ça. Mais sinon, non.
Voilà, c'était une question plutôt vers la fin du film. Pour l'idée de démocratie qui est proposée, c'est une démocratie participative. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est. Qu'on est conscient de sur le web?
Conscient sur le web, non. Parce que pour moi, le web. Oui, enfin, dans les milieux hackers, tu parles? Plus ou dans le milieu général
Général et hacker.
Ah, alors dans le milieu général, sur le web, je ne sais pas ce qu'ils sont conscients, parce que je vois beaucoup de Facebook, tout ça. La conscience, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi... Non. Ensuite, ce n'est pas pour dire que les hackers sont mieux et qu'ils ont une conscience ou qu'ils sont mieux que les autres, hein, loin de là. Ensuite, du coup, on va en revenir doucement à la politique, dans tous les mouvements. Je ne sais pas si... je sais qu'au sein de Télécomix, c'est apolitique. Voilà, on aime bien dire « ouais, on est apolitique ». Dans les faits, on est des individus. On a forcément plus ou moins une conscience politique ou quelque chose. On agit selon ça. Voilà, et on est à peu près, au sein de Télécomix, on est à peu près dans la même direction. Une démocratie participative, je ne pense pas que ce soit le bon terme. En fait, je ne pense pas. Ensuite, je ne peux pas répondre vraiment quel est le bon terme et vers quoi, parce que c'est vrai que moi, toutes les actions que je fais, je n'y mets pas de la politique dedans, personnellement.
Bonsoir. Moi, j'ai plus une question par rapport au choix des cibles, puisqu'on voit qu'à un moment, ils s'apprennent un journaliste néo-nazi, dont je ne partage pas forcément les idées, mais qui finalement a autant le droit de s'exprimer, je pense, qu'un antifasciste. Est-ce que c'est pas finalement une sorte de censure qu'Anonymous a fait envers ce journaliste? Et de la même manière, il y a des cibles peut-être plus évidentes aussi. Je pense à la Chine, qui n'a pas été victime d'attaques jusqu'à présent, je pense, ou de déblocage d'Internet.
Oui, alors, pour la première question, je suis entièrement d'accord, c'est privé de parole un journaliste, ou enfin, je ne sais pas, c'était où l'animateur qui était... néo-nazi, effectivement, ça va contre la liberté d'expression. Ensuite, je ne veux pas les dédouaner, c'est ce que ça a provoqué derrière qui est intéressant. Alors certes, lui, le gars, il a morflé. Je ne suis pas du tout adhérent de ce qu'il a dit, j'étais bien content quand il a pris. Fondamentalement, ça touche à la liberté d'expression. Ensuite, on va quand même, faut se rendre compte que c'est obligé qu'il y ait des choses comme ça. Pour arriver à derrière tout ce qui s'est passé, tout ce qu'a fait Anonymous, bon ou pas, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus du positif à terme ce qu'ils ont fait. En fait, oui, il y a un paradoxe. Clairement, il y a un paradoxe d'attaquer. Alors, pour les sites, par contre, j'ai une position différente. Quand ils attaquent des sites commerciaux tels que Mastercard, PayPal, d'ailleurs, ça n'a pas été cité, la pauvre banque suisse postale qui a pris pendant 7 jours très très cher, non pas cité. Pour moi, c'est pas priver la liberté d'expression. C'est égal à un sitting devant Renault. Voilà. C'est une manifestation. Quand il y a 500 personnes qui se mettent devant Renault ou autre, c'est une manifestation. Il n'y a pas d'empêcher. Enfin, ça n'empêche aucune liberté de parole là.
En fait, moi, je suis personnellement, je ne sais pas trop quoi penser d'Anonymous, parce que pour l'instant, je suis en accord avec l'ensemble des actions. Mais par contre, je trouve que c'est un mouvement qui peut être dangereux dans le sens où les cibles sont, enfin, pour moi, pas très bien définies, la façon d'agir, etc. C'est un peu comme une force de l'ombre qui a besoin de vivre comme ça, mais qui, quelque part, peut représenter un danger, typiquement quand ils s'attaquent. De la même manière, j'étais assez d'accord dans le fond, à l'État d'Israël. C'est quand même un État qui est élu, etc., qui est pas forcément défendable, je suis bien d'accord. Mais lorsqu'on s'attaque à des États, à des ministères, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité quand on est quelques, peut-être millions, mais qui ne sont pas forcément représentatifs, enfin, qui n'ont pas forcément de légitimité en Israël face au gouvernement israélien? même si la cause est noble pour l'instant, mais qui nous dit que un groupe de la même nature, mais du côté obscur de la force, pourrait faire la même chose envers une démocratie tout à fait légitime.
C'est les limites de l'anonymat. Je pense que, enfin, moi, c'est mon avis, c'est les limites du collectif Anonymous à ce niveau-là. C'est qu'à un moment donné, j'ai du mal à l'expliquer, il faut malheureusement des porte-paroles claires, nettes et identifiables. Sinon, effectivement, il y a la suspicion, ne serait-ce que la suspicion. Déjà, les gens, ils commencent à se dire, ah, mais attends, ça se trouve derrière, c'est manipulé, c'est noyauté. Ça a été dit sur Anonymous, ça a été dit aussi chez nous. Ensuite, qu'ils attaquent des gouvernements, à partir du moment où aujourd'hui, moi je considère que les gouvernements n'écoutent plus le peuple, qu'ils se démerdent avec ce qu'ils ont créé. Ça, c'est ma position à moi.
Ouais, encore une fois, ça marche parce qu'ils s'en prennent à des gouvernements qui sont contestables, mais la même chose pourrait arriver avec un gouvernement qui ne l'est pas. Enfin, dans le sens où, typiquement, un gouvernement qui a été élu démocratiquement par plus de 50% de la population, pour moi, est légitime dans un sens, quoi.
Oui, bien sûr, ça, oui. Et tout à fait, oui. C'est, oui. Il ne faut pas oublier non plus, alors là où on parle de choses vraiment très sérieuses, ensuite, le problème, c'est qu'on parle d'Anonymous, et on vient de voir quand même d'où ils viennent. C'est-à-dire que les mecs, c'est quand même des adorateurs de troncs coupés humains. Hein. Je le rappelle, c'est-à-dire pour le loose. Donc on a, c'est pour ça que c'est compliqué de parler de choses très sérieuses avec Anonymous, parce qu'effectivement, à un moment donné, on peut dire « Ouais, mais attends, regarde ce qu'ils font les mecs derrière pendant qu'ils dédosent pas un site. » On fait « Ah ouais, comment on peut tenir un discours cohérent et correct et réfléchi, comme nous on le fait actuellement, alors qu'eux, effectivement, ils vont pas forcément avoir cette dimension-là. Parce qu'il y en a peut-être, je ne sais pas, sur un dédos de 600, il y en a peut-être 50 qui vont se dire « Ouais, nous, on fait ça parce qu'on est sûr de ça, on a réfléchi entre nous. » Les 300 autres, ils cliquent. C'est tout. C'est vraiment que ça. Ensuite, oui, je suis entièrement d'accord. Un gouvernement qui est à 50%, il y a 50% qui est d'accord et l'autre qui ne sont pas d'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est... Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Anonymous aient fait des... trop d'erreurs. Je ne sais pas, je n'ai pas trop tout regardé parce qu'ils en ont fait... Si, ils ont fait un petit truc... je sais plus, je crois qu'il y a eu un petit. Il y avait eu une boulette en France, je crois. Un fichier de la police avec les adresses, tout ça, de la famille. Voilà, ça c'est le genre de dérapage. Et, bon, c'est pas Anonymous, mais c'est Anonymous. Même, rien que pour ça, déjà, comment ils peuvent se défendre? Et voilà. C'est ça.
Bonsoir. Vous avez dit que vous étiez apolitique, mais je voulais avoir votre point de vue. Après tous les efforts que vous avez fournis en Égypte, que pensez-vous de la ratification de la nouvelle constitution? Alors, votre point de vue, celui de Télécomix ou même des Anonymous?
Alors, je ne peux pas donner le point de vue des Anonymous. Si, je peux. Je ne peux pas donner celui de Télécomix parce que Télécomix, c'est un collectif et c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Le mien, non. Pas d'accord, du tout. Pas d'accord, parce que derrière, c'est pas que Morsi, hein, c'est les frères musulmans, ça c'est pas, c'est un secret pour personne. Ensuite, j'ai la chance d'aller presque régulièrement au Caire, donc j'ai la position des Anonymous, qui sont place Tahrir, hein, vous allez place Tahrir au jour d'aujourd'hui, on se rend compte réellement de l'impact d'Anonymous. Vous allez place Tahrir, vous avez des étals avec le masque Anonymous, avec des vieux, des jeunes, tout ça autour. Et là, on se dit, waouh, effectivement, c'est pas que du YouTube, c'est qu'il y a vraiment eu un impact sur des peuples, sur une nouvelle génération en plus, donc ils vont grandir, avec ça dans la tête, avec une idéologie bonne ou mauvaise, je pense plus bonne, à la limite, ce serait sympa. Oui, effectivement, non, je suis pas d'accord avec la nouvelle constitution et le grand pharaon, c'est ça. Il s'est abrogé tous les droits en bipassant. Il n'y a plus de justice à émis, si on l'entend. Donc non, voilà.
Et du coup, je vous rebondis là-dessus. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose pour essayer de faire changer cet aspect-là, ou est-ce que du coup, on laisse complètement tomber? C'est des opérations singulières et on n'y revient pas dessus.
Alors, on laisse. C'est pas une question de. Moi, je parle pas non Anonymous, je sais pas. Télécomix, nous, on a filé un coup de main, pas par truc politique, machin, on se dit, putain, ils coupent Internet, On peut les aider, on sait faire, on le fait. Ça s'est arrêté là. Le contenu de ce qu'on a fait, quand on a rétabli le peu de connexion qu'on a pu rétablir, le contenu qui est passé, on ne sait pas ce qui est passé. Un petit peu quand même. Non, mais on le savait, on a eu des documents, tout ça, mais si ça, enfin, il pouvait y avoir autant du bon que du mauvais qui passait dedans. Voilà. Ensuite, on laisse tomber. Ça, c'est moi, personnellement, non. Ensuite, Télécomics ne va pas faire de la politique à la place des Égyptiens. Enfin, si la France le fait, on va dire, ouais, pays de merde, ingérence, colonialisme. Pourquoi est-ce que nous, on le ferait? Voilà. Ensuite, j'ai des amis au Caire, j'ai, qui sont Égyptiens, qui ont participé activement à la Révolution, qui font un travail là-haut sur place, constamment, qui ils sont vigilants. S'ils nous demandent un coup de main, oui, on le fait. Mais on n'ira pas leur dire, ouais, attendez, ça part en vrille votre pays, il faut faire comme ci ou comme ça. Non, non.
Dans l'expérience sur la diffusion donc, de connaissances un petit peu techniques sur l'Internet à des gens qui avaient sans doute divers profils au moment où tu les as rencontrés, est-ce que tu as l'impression que ils ont eu envie d'apprendre après? Est-ce que ils diffusent eux-mêmes? Enfin, comment ça se passe un petit peu en pratique? La première fois que tu rencontres quelqu'un qui dit, voilà, qui tu apprends, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça pour pas être tracé, pour pouvoir communiquer avec ses amis, pour utiliser telle famille d'outils. Enfin, comment ces gens-là le perçoivent? Est-ce qu'il y en a qui se tournent vers la technique ou qui étaient déjà formés à la technique? Comment ça s'organise?
Alors, ils sont super curieux. Ils sont d'un très très bon niveau en Tunisie. Notamment, ils sont vraiment, ils ont envie d'apprendre beaucoup de choses. Je leur ai fait comprendre que eux aussi pouvaient apprendre beaucoup de choses. Voilà, parce que ils avaient un petit peu l'image, que ce soit d'Anonymous ou Télécomics, hein. Waouh, les mecs, c'est des élites. Je leur ai dit Clandon, non. C'est, que ce soit Télécomics ou Anonymous, c'est pas des élites. C'est pas des, je sais pas. Bon, bref, on sort pas tous des pitards. Je ne sais pas si c'est être élite chez Pita, mais bref.
Tu t'es dit non.
Et non, voilà, oui, ils sont très demandeurs. Petite chose que j'ai remarqué qui est assez drôle et qui me plaît beaucoup, que ce soit en Tunisie ou au Caire, toutes les nanas que j'ai rencontrées, elles sont au taquet. Elles sont au taquet. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs formations. Il y avait en général 2-3 nanas, qu'elles soient journalistes, blogueuses, activistes. Et en techno, les mecs à côté... Tout petit. Et elles sont très, très douées. Voilà, et si oui, sinon, ouais, elles sont super intéressées, super demandeurs. Et oui, c'est un peu frustrant quand je regarde un petit peu en France. Ça me frustre beaucoup la différence qu'il y a. C'est-à-dire que eux, quand ils font des cours d'info, le soir, quand ils rentrent, ils jouent pas à Minecraft, quoi, en gros. Voilà, c'est-à-dire qu'ils continuent à jouer, mais sur l'Internet, et à apprendre des choses, et à échanger entre eux. Je crois que c'est la différence notoire à peu près que j'ai pu constater avec la France.
Est-ce que tu peux nous donner, parce que Internet a été coupé donc en Égypte, il y a eu aussi la Tunisie, donc avec du filtrage pendant avant, enfin la Syrie. Et quel est l'état actuel après les révolutions de l'Internet là-bas? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est toujours contrôlé? Est-ce qu'il y a toujours des risques?
Alors en Tunisie, c'est mieux. En Tunisie, le risque est toujours là parce que le matériel est encore sur place. Et le ministre des Télécoms a dit il y a quelques mois, vous inquiétez pas, le matériel, on va pas l'utiliser comme on l'a fait avant, on va l'utiliser pour filtrer la pornographie pour vos enfants. Donc c'est un peu ce qu'on nous sert aussi en France, enfin ce qu'on nous a servi ailleurs. Bon. Au Caire, c'est particulier au Caire, là où leur réseau, c'est pas filtré, mais c'est bien... C'est bien surveillé, à fond, surtout. Alors le Caire, c'est un peu compliqué, c'est combien? C'est 50 fois Paris, je crois. Enfin, c'est juste énorme, c'est par district. Et par district, en fait, il y a du matos de surveillance qui est installé. Voilà. C'est pas bloqué, c'est pas filtré, mais le matos est là, c'est surveillé. Et voilà. Donc oui, mais ils sont vigilants.
Il n'y a pas eu de grosse évolution après la révolution, en fait, à ce niveau-là, au niveau du contrôle d'Internet?
Alors, ils couperont plus, clairement. Ça, je pense qu'ils feront pas deux fois la même erreur, surtout au Caire, et surtout en ce moment. Ils jouent un petit peu, par contre, ils ont trouvé des petites, ils sont malins. Par exemple, Place Tahrir, il y a beaucoup de 3G, ils utilisent tous la 3G, et ils jouent là-dessus en fait. Ils baissent la puissance. Alors, des fois, il y a plus de 3G, ça remonte, ça revient. Ils couperont plus à la limite le GSM, plutôt qu'Internet. Parce que tous les points où c'est un petit peu chaud, donc c'est pas les présidentielles, Place Tahrir, Downtown, là ils se disent on va pas couper Internet, sinon c'est tout le clair qui va nous foutre le merdier. On va plus couper le GSM ou faire des... S'il y a un peu trop de chaud, tac, voilà. Mais non, c'est... Il y a du mieux dans le... dans l'envie de faire d'autres choses, de pousser un petit peu. Donc s'il y a quand même du positif, mais pas que, ils sont pas encore sortis effectivement du bourbier.
Bonsoir, je voulais vous poser la question pour savoir si il y avait des Anonymous en Chine ou si Telecomix était en Chine aussi, parce qu'on sait que l'Internet est très contrôlé là-bas. S'il y a beaucoup de gens en Chine, ils sont nombreux, s'il y a des droits à défendre, ce serait plutôt là qu'aux États-Unis et ce genre de choses. Ils sont beaucoup plus censurés qu'ailleurs.
Des Anonymous en Chine, je sais pas. Telecomics en Chine, je sais, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contact. Voilà. C'est super compliqué, la Chine. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les différents réseaux sociaux qui sont mis en place là-haut. QQ, c'est l'égal de Facebook, etc.
C'est différent.
Mais voilà, et c'est justement déjà il y a cette barrière-là qui est très compliquée. En plus, il y a le filtrage, la grande muraille de Chine, hein, qu'ils ont d'ailleurs depuis quelques mois, ils sont super excités parce qu'ils bloquent vraiment, ils restreignent vraiment tout. Techniquement, il y a GitHub qui a 29% d'accessibilité, enfin, ils coupent tout. Tout ce qui est VPN, il n'y a qu'un seul fournisseur VPN, c'est pour. Ça crée en gros des tunnels pour pouvoir sortir d'un pays. Enfin, sortir dans un autre pays de façon tranquille. Donc ça, ils ont tout coupé, sauf un seul, qui est Astrid, je crois, de mémoire. Mais malheureusement, non. Voilà, je ne peux pas en dire plus là-dessus.
Et juste pour rebondir, ce qui a été dit dans le film, c'est qu'ils défendent surtout les valeurs comme la liberté d'expression, ce genre de choses. Donc, pourquoi il n'y a pas d'attaque, justement, sur tout ce qui est... tous les filtres chinois, par exemple, tout ce genre de choses. Alors, ça pourrait être attaqué, finalement.
Attaquer la Chine, alors ça...
Non, mais sans vrai. Non, on attaque bien l'Israël, on attaque bien ce genre de trucs.
Oui, mais non. Alors, moi, personnellement, j'ai une petite anecdote un jour. Je me suis amusé à scanner... il y a des ranges d'IP, d'accord. Et j'ai été voir un petit peu ces ranges d'IP une par une. Chaque IP, pour voir un peu ce qu'il y avait dessus. Je l'ai fait 5 minutes. Ma connexion, j'étais donc chez Free. Donc chez Free, l'IP est fixe, vous la gardez. Vous ne pouvez pas changer comme Orange, vous débranchez, vous rebranchez, vous avez une autre adresse Internet différente sur l'Internet, vous avez une autre IP. Chez Free, non. Et j'ai pris un DDoS, donc, de 7 jours, sur ma connexion à moi. Et un DDoS version, j'avais plus de télé, plus de téléphone, plus d'Internet. Vous le faites qu'une fois dans votre vie, ça. Vous allez faire chier les Chinois. Voilà. Et puis, attaquer les Chinois pour faire quoi ?
Par exemple, il y a des artistes indépendants qui ne peuvent pas s'exprimer.
Moi, je préférerais. Moi, c'est, après, ouais. C'est ma différence avec Anonymous. Je préfère essayer de prendre contact avec cet artiste-là, prendre ce qu'il fait et les diffuser sur YouTube, sur Flickr, sur d'autres choses. C'est ma divergence avec Anonymous, en gros.
Merci.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous compariez la France avec la Tunisie.
Presque.
Ouais. Oui. Non, enfin, pas le pays, mais les personnes qui participent. Du coup, je voudrais savoir exactement quelles sont les actions, par exemple, qu'a fait Telecomics, ou comment ça bouge en France, comment Anonymous s'organise, s'il s'organise, s'il y a eu des actions qu'on ne connaît pas, ou alors que certains connaissent, mais que je ne connais pas.
Alors, pour Telecomics en France, les actions... Alors déjà, Telecomics en France, on est... 4-5 gus, je crois, tout cassé. on se bouge le fion, hein. On fait des trucs. On organise par exemple les JIAC à Paris. Donc c'est une journée journaliste hacker avec RSF, qui m'aide beaucoup dans certaines actions que je fais. Je te remercie régulièrement. Reporters sans frontières, pardon. Donc on fait une formation, voilà, ouverte. Il y a des journalistes qui viennent, d'autres qui viennent. Une petite formation, une sensibilisation à la sécurité dans le milieu du journalistique. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Enfin voilà, en gros c'est ça. En France, les actions qu'on fait en France se limitent à ça au sein de Telecomics. Ensuite, si d'autres veulent faire des choses, welcome. Il n'y a pas, comme je le répète, il n'y a pas besoin de notions très compliquées de sécurité ou de réseau. Des fois, juste une personne qui sait parler, enfin qui sait écrire espagnol, bah cool, elle peut traduire des documents. Voilà, c'est juste ça, Télécomics. Hein. Ça sert que à ça. Et Anonymous, en France, très honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ils ont fait des choses, sûrement. Je suis pas trop au courant. Ils ont fait quelques opérations. Il y a malheureusement Triskel qui s'est fait arrêter, que je connaissais, qui est un Anonymous français, qui s'est fait prendre par la DCRI et puis jeter comme un malpropre à 2h du matin dans Paris, en slip pratiquement. Et Calin, qui est le second Anonymous, qui s'est fait arrêter pour DDoS contre l'EDF, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà.
Mais du coup, si ça bouge pas, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde, ou alors que ces personnes-là, elles travaillent sur d'autres projets ailleurs parce que ça bouge mieux. Et si ça bouge pas, c'est parce qu'on n'est pas assez renseigné ou parce que les gens n'ont pas envie. Je sais, ça fait beaucoup.
Le mouvement Anonymous en France, il a quand même pris à une époque, parce que j'allais sur les salons IRC, sur le serveur IRC d'Anonymous, pour regarder ce qui s'y passait. Effectivement, il y avait quand même du monde français, mais j'ai pas envie de me faire des ennemis chez Anonymous FR. Donc. Non. Donc ils parlent beaucoup, il y a beaucoup de prises de tête. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà. Après, ils ont fait les trucs. Ils ont fait un gros boulot de traduction, par contre, qui a servi en projet concret. Là, c'est pas des attaques du tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait du boulot de traduction, de diffusion de l'information. C'est super important. Ensuite, en termes d'action concrète d'attaque, à part les quelques... Voilà, je crois qu'ils ont fait des attaques en France sur l'Elysée, je crois, peut-être. Après, c'est peut-être plus une opé internationale, d'ailleurs, contre l'Elysée. Il y a eu Adopi qui a pris sévère, mais ça, c'est normal. Il y avait J'aime les artistes aussi, compris. Il y avait Barbier, le mec de l'Express, là, qui a cru bon de sortir à la télé. Venez attaquer mon site, je vous attends. Bon, dans la minute, c'était plié. Normal. Donc voilà. Mais oui, il y a des Anonymous en France. Effectivement, ils sont moins visibles que les Anonymous, que le mouvement Anonymous global. Ouais, c'est un peu dommage, c'est vrai.
Merci.
Tu parlais tout à l'heure de activistes avec ou sans H. Est-ce qu'en France, tu as pu constater des ponts qui se créent entre l'activisme traditionnel et les mouvements comme les Anonymous ou Télécomics?
Ah oui, clairement, oui. En France et même dans d'autres pays. Alors en France, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui... Alors pour le coup, je crois qu'Anonymous les soutient, Anonymous FR les soutient, je crois, bien. Donc ça, c'est pour le coup, Notre-Dame-des-Landes, c'est du activisme sans H. Il y a eu une relation avec... les ONG, la Fédération internationale des droits de l'homme, où je file régulièrement des coups de main, où on fait des choses à l'étranger aussi avec eux. Sur Paris, il y a beaucoup de... alors, c'est pas forcément Télécomics, c'est plus aussi le milieu hacker en général, les hackerspace, comme à Toulouse, hein, avec les Toulouse Hackerspace et MixArt. À Paris, il y a beaucoup de ponts qui sont comme ça, qui à la base... Pas forcément improbable d'ailleurs, parce que c'est un peu logique, à un moment donné, des mondes se rapprochent, parce qu'ils ont des choses à échanger. Voilà, c'est à peu près. Il y avait Greenpeace qui était venu nous voir par erreur, Télécomics, en nous demandant de DDoS des sites. Et on a dit non. Et apparemment, ils ont été chez Anonymous, et Anonymous a dit non non plus, donc elle n'a pas dû argumenter comme il fallait, je pense.
J'ai une question. Donc, tu as parlé de l'Égypte et de la Tunisie. La situation économique de l'accès Internet là-bas, c'est des opérateurs toujours monopolistiques, un petit peu de concurrence. Et vis-à-vis du niveau de vie, est-ce que effectivement il y a tout le monde a l'accès Internet à la maison, ou est-ce que c'est partagé via des petites boutiques, ou comment ça se passe dans ces pays-là? Parce que là, on parle un peu naturellement, tout le monde a l'accès Internet chez nous, mais ouais. Je suppose que là-bas, c'est un autre problème économique déjà pour commencer. Et ensuite, il n'y a peut-être pas de choix d'opérateur ou quoi que ce soit d'autre.
Oui, alors si en Tunisie, choix d'opérateur, il y a 3-4 opérateurs en Tunisie, ça reste quand même assez cher. Voilà, ils utilisent beaucoup la 3G, énormément, même chez eux. avec leur smartphone, etc. Mais ça reste quand même assez élevé. Au Caire, il y a deux ou trois opérateurs de mémoire. Et c'est bon, là-haut, au Caire, c'est carrément presque plus, on va dire, presque étatique. En Tunisie, beaucoup moins. D'ailleurs, il y a eu une ouverture, je crois, récemment, cette semaine, en Tunisie. Une ouverture un peu plus libre sur les FAI qui viennent, qui s'ouvrent, enfin, etc. Mais ça reste encore très, très cher. Ouais. Et non, là-haut, j'ai vu, par exemple, au Caire, les façades des immeubles, c'est des RJ45 qui se promènent de balcon en balcon, par exemple.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer comment, qui décide en fait de je dirais, d'attaquer pour un Anonymous, je parle bien, une entreprise ou par exemple la Scientology qui a lancé, je dirais, l'idée. Comment ça se passe en fait au niveau de l'organisation? Parce que c'est vrai, c'est que c'est flou, c'est des millions de gens en fait au niveau planétaire. Et comment ça se décide en fait au tout départ, le départ en fait?
Alors, j'ai assisté à 2-3 préparations d'opérations, enfin même pas. Un peu plus même. Alors, pour par exemple, alors pour des sites comme Mastercard, PayPal, même pas eu de vote, c'est direct, on fonce. D'autres, c'est plus un fait d'actualité. Alors, pas forcément en France qui nous va nous remarquer, mais par exemple aux États-Unis ou ailleurs, qui va faire que 3-4 Anonymous vont dire sur un salon donc de chat, c'est là où les gens se connectent pour discuter, en disant ouais, tenez, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et, c'est, on va dire, c'est du main levée, en gros. Une espèce de consensus. Par contre, j'ai quand même vu des fois où ils demandent des arguments concrets. Je veux dire, attends, pourquoi tu veux qu'on attaque? Montre-nous, prouve-nous, etc., etc., etc. Comme la pauvre nana de HB Gary que vous avez vue, là. HB Gary, il y avait, comment il s'appelle, le gars, là, qui s'est fait défoncer. Enfin, il était là tout à l'heure. Aaron Barr. Voilà, Aaron Barr. Alors, Aaron Barr, il n'est pas du tout patron d'HB Gary. C'est un CEO. HB Gary, derrière, il y avait 2-3 bailleurs de fonds, mais du pognon, dont une nana. Et cette nana-là, quand l'Anonymous sont tout dépouillés chez eux, il y avait des mails à elle, privés, très privés, plus d'autres choses, etc. Et elle est venue sur le salon IRC Anonymous pour demander aux Anonymous, pour supplier, de ne pas diffuser les mails privés, tout ça. Voilà. Et les Anonymous, ils ont fait, mais nous, on s'en fout, tes mails privés, on va les balancer. Au départ, c'est ça. Hein. Et même, ils ont même été, ils ont fait les 4chan pour le coup. Hein. Ils l'ont fait courir dans tous les sens. Et elle a quand même argumenté, et ils ont dit, OK, ces mails n'ont jamais été publiés, même au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même c'est un chaos. C'est un chaos complet, mais il y a quand même une logique, il y a quand même donc des gens qui décident, donc forcément il y a des influenceurs. Il y en a qui disent oui, non, il n'y en a pas, si, il y en a. À un moment donné, il y a forcément 3-4 personnes qu'on voit un peu plus fortes, ou un aura, pour que les autres disent ouais, ok, ils ont raison.
Bonsoir, justement pour relayer, est-ce qu'il y a une hiérarchie chez Anonymous? Et si elle existe, c'est en fonction de quoi? Des mecs qui ont plus de gueule dans la rue, des techniciens, des mecs qui sont influents politiquement ou,
Il n'y a pas de chef. Il y a des personnalités qui se dégagent au bout d'un moment, comme dans toute communauté, comme dans tout groupe. Un salon IRC, ça va jusqu'à 300, 400, 500, 600 personnes qui discutent tout ça. À un moment donné, il y a forcément une personne qui va savoir mieux parler, mieux s'exprimer. Et là, on est dans le domaine Anonymous, donc 4chan, donc c'est celui qui sort les trucs américains les plus fun, plus sexy, plus courts pour bâcher les autres. Il va forcément gagner un peu. Alors c'est ridicule quand on est de l'extérieur, on se fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un peu comme ça. Donc il n'y a pas de chef, mais il y a des personnes des images qui se dégagent. Voilà. Le Barrett Brown, avant qu'il se fasse prendre en prison là, il est venu chez Télécomics. On l'a reçu, hein, bien sûr. C'est pas qu'on l'aime pas. Hein, c'est que le gars, il a fait 4chan, il a fait Anonymous, porte-parole Anonymous. Anonymous après la vague d'arrestation qu'il y a eu, c'est retombé un peu comme un soufflet. Qu'est-ce qui restait? Télécomics, le mec, il s'est pointé chez nous. Ouais, coucou, c'est bien ce que vous faites, je peux parler pour vous, tout ça. On l'a reçu. C'est niette. Chez nous, c'est. Y a pas. Donc voilà, et Barrett Brown était une image. Mais pas un influenceur, je pense pas.
Est-ce que de l'anonymat a pas tendance à émerger mécaniquement, naturellement, une espèce de. de réflexion, de consensus, de recherche de consensus sur la notion d'intérêt général. Est-ce que c'est peut-être pas ça la qualité la plus intéressante de l'évolution de ce mouvement ? Enfin, c'est une, à la fois une remarque et une question.
Ben, le fait d'être anonyme, effectivement, c'est important. Ça, moi, je suis un fervent militant du droit à l'anonymat sur Internet. Parce qu'effectivement, ça permet de d'avoir une parole sans visage, sans être jugé. Et c'est pas neutre, parce que forcément, il y a une parole, donc il y a des convictions. Mais je trouve que c'est super important. C'est pour ça que d'ailleurs, Anonymous a marché, parce que comme ils disent, on ne tue pas une idée. Alors ok, ça fait très film américain. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Hein. Mais je trouve que vraiment, le masque, enfin le fait d'être anonyme, aide à pousser ce genre de choses. Parce qu'on a du mal à dire, on va pas pouvoir forcément critiquer ce mouvement parce que on peut pas dire qui est derrière. Donc c'est compliqué à attaquer. C'est super dur de dire ouais Anonymous, vous êtes des, mais vous pouvez pas le dire parce que vous savez pas qui est derrière. C'est anonyme. Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif c'est le fait d'être anonyme, c'est compliqué pour démentir des trucs qu'on a fait ou pas.
Et dans les perspectives du mouvement, qu'est-ce qu'on peut observer actuellement sur son évolution et un peu de science-fiction, quoi.
Sur Anonymous ?
Ouais.
Bon, alors là, pour le coup, c'est un peu comme Télécomics, aucune idée. Télécomics, c'est pareil. Anonymous, c'est pareil, aucune idée. Demain, là, pour l'instant, c'est un peu mort, quand même, faut le dire. Surtout depuis que l'Ulsec a arrêté. Je pense que quand l'Ulsec a arrêté, pour moi, Anonymous va perdre un peu d'éclat. Mais ça peut repartir demain, pour rien. Kit.com, là, vient de rouvrir méga truc. Si les Américains ils disent oh, on va le resupprimer, ça peut repartir en vrille le soir même. Ou le gouvernement américain décide demain pour X raisons de fermer 4chan, par exemple, parce qu'ils sont capables de faire cette imbécilité, ça va repartir comme voilà. Donc un rien peut faire déclencher et repartir tout en plus fort en plus pour le coup, parce qu'il y a quand même ça a marqué des gens. Il y a des jeunes qui étaient sur Facebook qui connaissaient pas ce milieu-là. Quand ils ont vu que Big Upload était fermé et qu'il y avait une belle propagande d'Anonymous sur Facebook, ils ont bien cartonné. Bah ces jeunes-là, ils ont rejoint Anonymous juste pour Big Upload. Après, ils s'en foutent. Ça veut dire, mais ils ont fait la démarche d'y aller et ils referont une deuxième fois. Donc voilà. Donc je peux pas dire que demain il y a ça. Non, ça c'est imprévisible.
Après, il y a eu des positionnements récents, il me semble, mais on me dira si je me trompe. En Grèce, c'était l'automne dernier, je crois, où ils ont fait fuiter des documents du ministère de l'économie, il me semble. Donc là, on n'est plus dans le positionnement sur la liberté d'expression. Il commence à y avoir un positionnement sur l'actualité de la crise. Est-ce que c'est révélateur d'une évolution ou est-ce que c'est un cas isolé et pas représentatif ?
Ah non, je pense que c'est une évolution. C'est-à-dire que Anonymous a explosé aux yeux de Madame Michu, comme je dis. Alors, pour expliquer, c'est aux gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là, qui utilisent Internet, Twitter, Facebook, qui font des trucs de famille, qui jouent même, beaucoup de gamers, hein, qui sont rejoints là-dedans, enfin qui se sont retrouvés un petit peu aussi là-dedans. Ils ont été confrontés à ce mouvement-là, ils se sont dit, bah en fait, nous, dans notre pays, Grèce, on va fufiter des trucs, on se reconnaît un peu dans ce mouvement-là, donc on va se l'accaparer un petit peu aussi. Donc c'est pas une évolution, c'est une continuité en fait. Tout simplement. C'est si moi, demain, je veux faire fuiter les documents, le meilleur moyen de le faire, eh bien, je le fais au nom d'Anonymous. Voilà. Enfin, du document positif, enfin, qui irait dans le sens du mouvement.
C'était pour revenir sur Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que vous faites concrètement, pratiquement, là-bas, en fait ?
Alors, Notre-Dame-des-Landes, j'ai un ami qui y est. Là, je peux pas te dire malheureusement ce qu'il fait. Je veux pas. Non, parce que c'est. La situation là-haut, elle est bien particulière. Je pense que tu es peut-être au courant. Voilà. Je sais qu'il est sur place. Enfin, il est pas loin. Il a filé des coups de main. Voilà. Et du coup, pour le coup, il le fait de façon anonyme.
Très drôle.
Merci.
Merci à vous.